Elle lire de Saint-Thomas dans le Contra Gentiles, exposer de fait les cinq voies que nous allons retrouver dans la Somme. Mais il les expose d'une manière assez différente. Alors, pour celui qui s'intéresse à la pénétration toujours plus grande de la pensée de Saint-Thomas, ou l'évolution, si vous voulez, il y a un intérêt, c'est intéressant de voir ça. Parce que c'est intéressant de voir comment, dans le Contra Gentiles, on est en présence d'un aspect plus descriptif, d'un aspect beaucoup plus proche d'Aristote. La première via de Contra Gentiles, pratiquement, est dans la ligne directe de la physique. Tandis que dans la Somme, ça va être beaucoup plus élaboré. Et puis, surtout, j'allais dire, dans le Contra Gentiles, saint Thomas n'hésite pas de faire tout le temps référence à Aristote. Alors, ce qui est intéressant, je ne vais pas faire la comparaison, ce serait beaucoup trop long, mais il faut le faire, ceux qui s'intéressent vraiment à la question. Il y a une traduction maintenant pour le Contra Gentiles, donc c'est facile à faire, de lire attentivement les voies. Vous trouvez dans le Contra Gentiles les cinq voies. Donc elles sont présentes déjà dans le Contra Gentiles. Alors maintenant, je vais essayer avec vous de regarder dans la Somme, là, je crois qu'on peut dire que c'est la dernière façon dont saint Thomas expose les voies d'accès vis-à-vis du mystère de Dieu. Il y a simplement un autre aspect qu'il faudra complément, qu'il ne faut jamais oublier, c'est d'une part dans son commentaire de saint Jean, où saint Thomas nous donne un aspect beaucoup plus général, dans un style tout à fait différent de celui de la Somme. Saint Thomas, dans le prologue de son commentaire de l'évangile de saint Jean, expose les quatre manières dont les philosophes anciens sont parvenus à la contemplation de Dieu. À la contemplation de Dieu. Ce n'est pas l'exister, c'est la contemplation de Dieu. Mais c'est intéressant à regarder. C'est intéressant de faire le parallèle. Et puis alors, en plus, il y a le compendium theologiae, qu'on ne sait jamais où loger, vous savez bien. Le compendium, c'est quelque chose de très particulier. C'est un écrit de saint Thomas pour frère Réginald. Frère Réginald était le seul qui savait lire l'écriture de saint Thomas, puisqu'on l'appelait l'illisible. Et frère Réginald avait ce don de lire l'écriture de saint Thomas. Et c'était l'ami de cœur de saint Thomas, frère Réginald. Et alors, dans le Compendium Theologiae de saint Thomas, il expose une voie unique qui, en apparence, est une simple reprise de la première voie de la Somme. Je dis en apparence, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Mais vous voyez, au fond, il faut bien reconnaître que c'est ce qui nous est donné dans la Somme qui représente, je crois bien, la pensée la plus évoluée de saint Thomas sur le problème. Alors, comprenons que ces cinq voies se donnent dans la question 2, article 3. Alors, vous savez bien, si vous avez un peu fréquenté saint Thomas, que c'est la question qui est l'unité, c'est pas l'article. De sorte que je ne peux pas comprendre le sens de l'article 3 si je ne regarde pas l'article 1 et 2 qui sont avant. Et ceci, c'est très important. Parce que dans l'article 1, saint Thomas montre une perspective qui n'est pas du tout celle d'une démonstration. C'est un aspect critique. Est-ce que l'essai de Dieu est per se notum? Très important de noter cet article premier. Est-ce percé notum? Ça, c'est une terminologie consacrée. Est-ce percé notum égale évident? Est-ce que l'exister de Dieu, ou Dieu existe, est-ce que c'est évident pour nous? Est-ce que c'est évident? Plus exactement. L'article pose, est-ce que c'est évident? Vous voyez donc que
dès cet article premier, nous pouvons dire que saint Thomas se pose la question de l'intelligence face à l'essai de Dieu. Autrement, ça n'aurait pas de sens, l'essai de Dieu. Est-ce que c'est évident? C'est évident pour une intelligence. C'est pas évident pour Dieu lui-même, comprenez bien. Donc c'est évident pour une intelligence. Donc tout de suite, on voit que l'article se pose dans une perspective critique de théologien. C'est pour ça que je crois qu'on doit dire que la question 2, c'est une perspective critique de théologien. C'est pas du tout de la métaphysique. C'est très important parce que toute la tradition a pris les voies comme c'était de la métaphysique. Jusqu'à Marie-Claude, y compris. Alors c'est quand même très important de comprendre la perspective de saint Thomas, qui est une perspective critique. Quel est le lien entre mon intelligence et l'essai de Dieu? Et c'est pour ça que saint Thomas, dans cet article premier, je ne le lis pas avec vous, mais il est très simple à comprendre, saint Thomas dit tout simplement que l'exister de Dieu est-il persenotum en soi, coadmodus, donc pour nous, en soi, l'exister de Dieu est évident. Pourquoi? Parce que en soi, l'essai appartient à Dieu d'une façon nécessaire. Et donc, c'est évident. Qu'est-ce qu'une proposition est évidente? Une proposition est évidente quand l'attribut fait partie essentielle de son sujet. Donc, quand l'attribut fait partie essentielle de son sujet, si l'essai appartient essentiellement à Dieu, je peux dire que l'affirmation, la proposition « Dieu existe » est une proposition évidente. Donc, en soi, c'est une proposition évidente. Coadmos, pour nous, ce n'est pas une proposition évidente. Alors, vous voyez, la chose est déjà très délicate. On a l'air de regarder l'existence de Dieu et on parle de la proposition. La proposition, Dieu existe. En fait, c'est une proposition, Dieu existe. Dieu existe-t-il? On parle tout de suite de la proposition. Donc on voit bien qu'on est dans une perspective critique de savoir si mon intelligence peut atteindre immédiatement l'existence de Dieu. Et quand elle affirme « Dieu existe », est-ce que cette proposition est pour moi évidente? Cette proposition est évidente en soi. Coadmos, non. Elle n'est pas évidente pour nous. Et là, saint Thomas, tout de suite, se met dans une position totalement différente de celle qui l'enseigne. Cette proposition n'est pas évidente pour nous. Pourquoi? Parce que pour que cette proposition soit évidente pour nous, il faudrait que nous comprenions ce qu'est Dieu. Nous ayons un concept de Dieu. Si j'avais un concept de Dieu, je pourrais dire que cette proposition « Dieu existe » est évidente. Mais je n'ai pas de concept de Dieu. Donc la proposition « Dieu existe » n'est pas évidente pour nous. Alors, vous voyez que cette distinction est aussi très intéressante, parce qu'elle montre que nous sommes vraiment dans une perspective d'une philosophie réaliste. On distingue la réalité considérée en elle-même et la réalité telle que je suis capable de la connaître. Cette distinction-là n'a de sens qu'en philosophie réaliste. Pas de sens, hein, pas de sens en philosophie platonicienne et néoplatonicienne. Donc là, je saisis tout de suite l'aristotélisme de saint Thomas. Et quand les gens disent que saint Thomas est néoplatonicien, fourrez-leur cet article-là. Ils demandaient d'expliquer ça en néoplatonisme. C'est impossible de l'expliquer. Il ne faut pas l'expliquer en néoplatonisme. Parce que pour le néoplatonisme, il n'y a pas de distinction entre l'intelligibilité et la réalité. Donc, ici, on fait une distinction, on montre qu'il y a une distinction entre la réalité considérée en elle-même et la réalité considérée par rapport à moi, telle que je suis capable de la connaître. Donc, saint Thomas montre dans ce premier article que la proposition « Dieu existe » n'est pas connue d'une manière évidente pour moi. Si elle n'est pas connue d'une manière évidente, elle est peut-être connue par la médiation de quelque chose d'autre. Alors, est-ce que la proposition Dieu existe est-elle démontrable? Ce qui n'est pas évident peut être démontrable. Bien sûr. Parce que qui dit évident dit saisi immédiatement sans intermédiaire. Qui dit démontrable dit saisi par l'intermédiaire d'un métaxu, d'un intermédiaire. Tandis, si donc l'existence de Dieu, la proposition de Dieu existe, n'est pas immédiatement connaissable pour moi, n'est pas évidente pour moi, alors est-ce qu'elle est démontrable? Très bien. Seconde question, est-elle démontrable? Saint Thomas dit qu'il y a une nouvelle distinction, typiquement aristotélicienne. La démonstration peut être prise de manière a priori, a posteriori. Il faut connaître cette distinction, elle est capitale. Vous la trouvez, cette distinction, dans les analytiques. Dans les analytiques d'Aristote, vous trouvez cette distinction. Une démonstration a priori, c'est une démonstration qui part des principes. Des principes propres. Une démonstration a posteriori, c'est celle qui part des effets. De remonter à la cause. Saint Thomas précise que seule la démonstration a priori qui part des principes propres est parfaite. La démonstration qui part des effets pour remonter jusqu'à la cause est une démonstration imparfaite. Et c'est très important de se le rappeler. Une démonstration imparfaite ne satisfait jamais totalement mon intelligence. Elle laisse donc toujours une certaine indétermination. Seule la démonstration parfaite peut vraiment déterminer pleinement mon intelligence et la satisfaire. Donc l'intelligence se repose après une détermination, après une démonstration a priori. Tandis qu'elle ne se repose pas après une démonstration a posteriori. Parce qu'elle est imparfaite. On n'a pas assez souligné ça. C'est pour ça que Saint Thomas va appeler ces démonstrations a posteriori des voies. Sont des voies, on trace des voies. Marita dira approche, c'est pas suffisant. Je crois qu'il vaut mieux dire voie qu'approche. Parce que des approches, c'est encore quelque chose à venir. C'est plus que des approches. Et c'est pas une démonstration absolue, alors il vaut mieux dire voie. Ou alors inscrit démonstration a posteriori. Donc, Saint Thomas va nous montrer que lorsqu'il s'agit de Dieu, il ne peut pas y avoir de l'exister de Dieu. Il ne peut pas y avoir de démonstration a priori, mais il peut y avoir une démonstration a posteriori. Alors, cet article-là est capital pour comprendre l'article 3, parce qu'il nous fait comprendre que l'article 3, c'est une démonstration a posteriori. Ce sont des démonstrations a posteriori, ou c'est une démonstration a posteriori. C'est capital de comprendre le caractère propre de toute démonstration a posteriori. Eh bien, le caractère propre de la démonstration a posteriori, c'est justement de partir des effets pour remonter à la cause. Alors, celle-là peut exister lorsqu'il s'agit de l'exister de Dieu. Et vous voyez que la démonstration a posteriori, celle qui part des effets, pour remonter jusqu'à la cause, se sert nécessairement du principe de causalité. Je vous lis le passage de saint Thomas, n'est-ce pas ? Donc, elle part de l'expérience, et bien qu'elle soit ainsi a posteriori, ce dont elle parle est premier par rapport à nous. C'est pourquoi, toutes les fois qu'un effet nous est plus apparent que sa cause, nous recourons à lui pour reconnaître la cause. Or, de tout effet, quel qu'il soit, on peut démontrer qu'il a sa cause propre, à supposer que les effets de cette cause
nous soient eux-mêmes plus manifestes. Car l'effet étant dans la dépendance de la cause, dès que l'effet est posé, nécessairement la cause préexiste. Donc, l'exister de Dieu, selon qu'à notre égard elle n'est pas évidente, peut être démontré par ses effets de nous, par ses effets de nous connus.
Donc ces démonstrations a posteriori, à partir des effets, je remonte à la cause. Et bien, pour pouvoir des effets remonter à la cause, il faut nécessairement se servir du principe de causalité. Donc voilà le caractère propre de la démonstration a posteriori. Il est moins parfait, mais pour nous, si nous connaissons les causes, on pourra, si on connaît les effets, par là, on pourra découvrir les causes. Alors, article 3, quelles sont les démonstrations a posteriori? Et c'est là où Saint-Thomas nous donne les cinq voies. Alors, je crois que c'est très important de comprendre l'organisation de cette question 2,
qui est le début de la somme, tout repose là-dessus, pour comprendre que nous sommes dans une perspective critique. Comment l'intelligence humaine peut-elle atteindre l'exister de Dieu?
Voilà la question. Et c'est pas du tout, Dieu existe-t-il? Pas du tout. Le théologien sait deux choses. Le théologien sait que Dieu existe par sa foi. Le théologien sait que l'intelligence humaine existe. Et le théologien doit se poser la question: dans quelle mesure l'intelligence humaine est-elle capable d'atteindre l'existence de Dieu? Il connaît les deux extrêmes, Dieu, l'existence de Dieu, et le point de vue de l'intelligence. Quel est le rapport qui existe entre les deux? On comprend très bien cette position du théologien. Puisqu'il connaît les deux extrêmes, il doit se poser la question: quelle est la relation entre les deux? Or, il y a une position de l'Église, de la tradition de l'Église que je vous rappelais ce matin, qui est très nette. Le théologien doit donc essayer de comprendre comment l'intelligence humaine peut atteindre l'existence de Dieu. Il me semble très important à bien saisir, parce qu'à partir de là, vous voyez tout de suite qu'il y a trois positions. Une, l'existence de Dieu est évidente. Deux, l'existence de Dieu est démontrable. Trois, l'existence de Dieu est indémontrable. Il y avait trois positions, on ne peut pas en avoir 36. L'intelligence humaine face à l'existence de Dieu. L'existence de Dieu est évident. Position 57. L'existence de Dieu est démontrable, la position de la plupart des pères de l'Église, celle de saint Thomas. La position, l'existence de Dieu est indémontrable, ce sera alors la position que nous aurons avec nous. Ou la position, si vous voulez, avant Kant, qui était mon père. On va dire que c'est la position qui sera à partir de Luther. Ce sera une position qui va intervenir énormément. Alors que avant, on peut dire que c'est ces deux. Saint Anselme nie l'évidence et la démonstrabilité, elle est commune pratiquement à tous les pères. C'est important, cette question pour saint Thomas, parce que si l'intelligence humaine est incapable de démontrer l'existence de Dieu, il ne peut plus y avoir de théologie scientifique. Alors ça, c'est aussi très important à bien saisir. Si l'intelligence humaine est incapable d'atteindre l'existence de Dieu, il ne peut plus y avoir de théologie scientifique. Et on comprend pourquoi. Il ne peut plus y avoir qu'une théologie biblique. Il ne peut plus y avoir de théologie scientifique, parce que je ne peux pas faire dans l'écriture le discernement entre les analogies métaphoriques et les analogies propres.
Je me disais hier,
ça devait penser à ça. Et quelqu'un qui s'inculpe de la catéchèse.
Alors, vous voyez, pour faire comprendre à un gosse qui avait des noms de Dieu,
faire connaître à un gosse qui a des noms de Dieu, multiples noms de Dieu. On avait dit à un gosse,
viens écrit sur une feuille tous les noms de ton petit copain.
Alors il avait beaucoup réfléchi sur tous les noms de son petit copain. Alors il avait réfléchi, bon, Charlot, je crois qu'il s'appelait Charlot.
Charlot, puis alors après, imbécile, idiot, tous les noms
de petit copain. Il dit, moi je ne disais rien, j'ai vu la feuille. Charlot, imbécile, alors encore un, encore plus. De tous les noms, hein, les plus imaginables, passez tous. Sur leur veille, Dieu, les noms de Dieu. La métaphore et l'analogie propre.
J'espère que vous comprenez.
Bon, sûrement, celui qui avait fait ça n'avait absolument pas compris ce que c'était que les noms de Dieu.
Alors il voulait dire, mais très bien.
Comme tu appelles, tu vois, tout ton petit copain, tu l'appelles. Quand tu es de bonne humeur, tu dis, ah, tu es charmant. Tu es mon charme, tu es mon amour. Enfin, les gens te disent, imbécile. Alors, Dieu, c'est la même chose. Vous l'appelez selon vos humeurs. Alors, plus de théologie scientifique, donc plus de différence entre les noms métaphoriques et les noms proprement propres. C'est vrai que dans l'écriture, il y a un langage symbolique. Le langage symbolique de l'écriture, c'est notre expérience. Alors vous dites très bien, bonne attention, pour savoir ce que c'est que le nom de Dieu, mais oui, tu peux appeler ton petit copain.
Alors tu l'appelles de tous les noms possibles.
Oui, faisons attention. Faisons attention. Je ne peux pas attribuer n'importe quel nom à Dieu.
Je dirais fou, raca.
Je dirais espèce d'imbécile.
Non, je ne peux pas attribuer n'importe quel nom à Dieu. Et pour ça, il faut faire le discernement entre les noms métaphoriques et les noms propres.
Oui. Et alors, c'est là où, si l'intelligence humaine est incapable d'atteindre l'existence de Dieu par une démonstration a posteriori, je ne peux pas faire le discernement entre les analogies métaphoriques et les analogies propres. C'est pour ça que saint Thomas dit ceci au début de sa somme pour éprouver l'instrument dont il se sert.
Il faut toujours éprouver l'instrument dont on se sert pour voir jusqu'où ça va.
Jusqu'où notre intelligence humaine est-elle capable d'atteindre Dieu. Donc j'éprouve l'instrument. Puisque je vais m'en servir ensuite. Alors je l'éprouve.
Je vais voir si cet instrument est bon.
Si mon intelligence humaine est incapable d'atteindre l'existence de Dieu, mon intelligence n'est pas faite pour Dieu. Donc mon intelligence n'est faite que pour connaître les réalités physiques. Et vis-à-vis de Dieu, je peux dire n'importe quoi. Puisque je pourrais le connaître. Alors ce ne sera plus une question de sentiment, une question d'amour, c'est tout. Il ne pourra plus y avoir de vraie théologie scientifique.
C'est pour ça que cette question est si importante. Hein. On sent très bien que saint Thomas l'a beaucoup, beaucoup soigné. Alors entrons maintenant, si vous voulez, dans cet article 3. Je vais lire avec vous, hein, je crois que le mieux, puisque il faut avoir au moins lu dans sa vie une fois les cinq voies de saint Thomas. Au moins, si je vais lire avec vous, vous les aurez entendues une fois dans votre vie. Et puis c'est peut-être ça me donnera envie d'aller regarder ce passage vénérable, on peut dire qu'il est vénérable, ce passage vénérable où saint Thomas nous aide à essayer de remonter par les cinq voies vis-à-vis de l'existence de Dieu. Alors n'oublions pas qu'on est en théologie, donc on n'est pas en
métaphysique, on n'est pas en philosophie première. Comme de coutume, saint Thomas commence par montrer les objections. Est-ce que Dieu existe? Vous voyez ici, ce n'est plus la proposition Dieu existe, c'est ça qui est déroutant dans cet article, dans cette question 2.
Parce que vous avez
proposition Dieu existe, Dieu est irrémontrable, c'est une proposition. Le troisième article, Dieu existe-t-il?
Alors il faut au moins se poser la question.
Pourquoi passe-t-on de la proposition à l'affirmation directe Dieu est-il? Dieu existe-t-il? Et en effet, quand vous voyez de fait les objections, vous voyez que les objections portent bien sur l'existence de Dieu. Donc, dernière position, l'athéisme. Hein. Pas seulement l'agnosticisme, je ne connais pas l'existence de Dieu, mais Dieu n'existe pas. Toutes ces questions-là sont donc là. Donc, dans cette question 2, saint Thomas souligne quatre positions d'intelligence à l'égard de Dieu. L'évidence, la démonstrabilité, la double démonstrabilité, l'indémonstrabilité et la négation. Donc vous avez cinq positions. L'intelligence face à l'exister de Dieu peut prendre cinq positions. Et c'est vrai, historiquement, c'est ce qui existe. Et c'est intéressant de le voir amené dans cette question de... Alors, dans cet article 3, saint Thomas dit ceci, « Dieu n'existe pas. De deux contraires, si l'un est infini, l'autre est détruit de façon complète. Or, quand on prononce le nom de Dieu, on l'entend d'un bien infini. Si hoc intelligitur in nomine Deus, in nomine Deus, quod sit quondam bonum, donc, si je dis Dieu, je pense tout de suite à un être infiniment bon. Donc, si Dieu existe, il ne peut pas y avoir de mal. Or, le mal existe. C'est très intéressant de voir que saint Thomas pose que la grande objection à l'existence de Dieu, c'est l'existence du mal. Face à tous les athéistes contemporains, on peut redire exactement la même chose. Rostand n'hésitait pas à dire que pour lui, c'était l'existence du mal qui l'empêchait d'affirmer l'existence de Dieu. Il ajoutait, c'est sans doute parce que j'étais éduqué dans un milieu purement positiviste que je n'arrive pas à dépasser l'existence du mal pour affirmer qu'il existe un être parfait, un être bon. Alors, la seconde objection, elle est très intéressante aussi, parce qu'alors ça c'est le positivisme. La première c'est le côté affectif. L'affectif peut faire un barrage. Si je suis trop impressionné par le mal, je n'arrive pas à le dépasser. Je suis inhibé par le mal. Et alors parce que je suis inhibé par le mal, mon intelligence n'arrive. L'intelligence est complètement arrêtée. Donc c'est l'objection affective. La seconde objection, c'est une objection, j'allais dire, du positivisme avant la lettre. Saint Thomas montre que c'est tout à fait inutile de poser des choses. Parce que justement, l'univers peut s'expliquer par lui-même. D'ailleurs, pourquoi cette hypothèse? Ce qui peut être accompli par des principes en petit nombre ne met pas en jeu pour se produire de plus nombreux principes. Or, il semble bien que tous les phénomènes observés dans le monde puissent être réalisés par des principes indépendants de Dieu, sans supposer l'existence de Dieu. Car ce qui est naturel a pour principe la nature, et ce qui est libre a pour principe la raison humaine, ou si l'on veut la volonté. Il n'y a donc nulle nécessité de causer Dieu. Vous avez deux grandes causes qui expliquent tout, la nature et la volonté. Pas besoin d'en poser une troisième. Mais le petit nombre de principes vaut mieux qu'au plus grand nombre. C'est le positivisme, hein, avant la lettre. À ce moment-là, c'est très intéressant parce que ça montre que saint Thomas a bien vu les deux grands obstacles qui empêchait l'intelligence humaine d'atteindre l'existence de Dieu. Il n'en est que deux. D'habitude, il met toujours trois objections.
Donc c'est conscient. C'est conscient. Il ne va en mettre que deux. Une affective, l'autre intellectuelle. L'une affective, le mal, l'exister du mal. L'autre intellectuelle, la raison. La raison, raisonnement. La logique qui passe avant la métaphysique. Alors, on regarde le nombre de principes, et puis on dit que c'est la nature, et puis c'est la volonté. Et alors, le sept contrat de saint Thomas est très net, on est en théologie. L'exode dit, en la personne de Dieu, je suis celui qui suis. Ego sum esso. C'est bon encore de le rappeler aujourd'hui. N'est-ce pas? Parce qu'en fait, je suis qui suis. C'est le verbe être dont Dieu se sert pour montrer qu'il existe. Les philosophes d'aujourd'hui veulent faire mieux que Dieu. Alors, supprimant le verbe être pour dire l'être ne pénètre pas en Dieu. Alors que s'ils étaient plus croyants, ils verraient que c'est une signification. Et que cette signification m'empêche de pouvoir nier l'existence de Dieu. Mais ça, c'est la foi qui dit ça. Donc, c'est vraiment en théologien que saint Thomas nous donne ces cinq voies. Alors, je regarde la première voie que je vais analyser avec vous. C'est toujours la première qu'on doit analyser. Hein. C'est la plus facile, comme nous dit saint Thomas. La plus manifeste. Ça ne veut pas dire que pour nous, elle est plus facile. La preuve de l'existence de Dieu peut être obtenue par cinq voies. Si vous voulez, potes probari quinque viis deum esse. Dieu existe implique cinq voies. La première voie. Ça, c'est une autre question. C'est une très grave question de savoir si les cinq voies qui forment un seul article ne forment qu'une seule démonstration. On essaiera de comprendre au thème. C'est une question intéressante, parce que de fait, l'article est unique. Je veux dire, l'article a son unité dans un thème. Alors il met cinq voix dans un seul article. Si chaque voix avait une difficulté particulière, il les mettrait dans cinq articles successifs. Il les a mis dans un seul article. Je crois que ça, c'est très significatif sur la position de saint Thomas. Les thomistes les séparent. Et on fera une thèse sur la première voie, une thèse sur la seconde voie, une thèse sur la troisième voie, une thèse sur la quatrième voie, une thèse sur la cinquième voie. C'est vrai, on ne fait jamais plus une thèse sur les cinq voies. Ça ne se fait plus, ça. C'est une thèse sur chaque voie particulière. Et alors, je me demande si en se mettant dans chaque voie particulière, est-ce qu'on se met encore dans une perspective qui est vraiment celle de saint Thomas? Il faut au moins se poser la question. La première et la plus manifeste, manifestior via est, elle est prise ex parte motus. Saint Thomas nous montre toujours, hein, au point de départ, la coloration de ces voies. Et alors la première voie, elle est prise sumitur motus. À partir du mouvement. C'est intéressant de voir ça. C'est une voie qui s'enracine dans le jugement, il existe des réalités qui sont nues. C'est la plus manifeste parce que ça, personne ne peut le dire. Personne ne nie qu'il existe des réalités qui sont nues. C'est intéressant de voir que dès que vous acceptez l'évidence, dès que vous acceptez qu'il existe des réalités nues, vous affirmez l'existence de Dieu. Pas directement, mais immédiatement. Donc, prima autem est manifestio est sumitur ex parte motu. Voici, il est évident, nos sens nous l'attestent, que dans ce monde, certaines choses se manifestent. Donc il est cher tout mest, il est évident, il est certain, et c'est constaté par le sens, que aliqua moveri in hoc mundo, que certains sont mus dans ce monde. Certains sont mus dans ce monde.
pas nier ça. Donc, je pars de l'expérience. Et cette expérience, elle porte sur Aliqua. Aliqua Morelli. Certains sont dans ce monde. Une fois que j'ai affirmé ça, c'est la constatation, c'est un fait. C'est un fait. Je ne peux pas nier ça. Je ne peux pas nier qu'il y a des réalités qui sont vraies. Moi-même, je suis nu. Évidemment. Je ne peux pas nier que je ne suis pas nu. Quand on vous transporte en auto, quand vous dégringolez un escalier, vous êtes nu. Faites l'expérience de temps en temps pour vous rappeler la prima vie. Voilà, vous pâtissez, c'est bon. Alors vous ne pouvez pas nier que de temps en temps vous dégringolez, vous tombez. Donc vous êtes nu. Deuxièmement, A, l'expérience. Petit B, je vais éclairer cette expérience par un mouvement, par un principe. Tout ce qui est nu, tout ce qui est nu, est nu par un autre. Ça, c'est très intéressant. Tout ce qui est nu par un autre. Ce principe a été donné par Platon. Il a été donné par Aristote. Exactement le reprend. Tout ce qui est mu par un autre. Pour Platon et pour Aristote, c'est évident. Pour nous, c'est moins évident. Parce qu'on a évolué depuis une fois. Alors, tout ce qui est mu, on pourra bien arriver à le comprendre. Tout ce qui est mu par nous. Vous voyez, c'est tout ce qui est mu, la réalité qui est mu par un autre. Et saint Thomas va préciser, bien que nous comprenions bien. Tout ce qui est mu par un autre. En effet, rien ne se meut qu'autant qu'il est en puissance. Alors, la traduction est mauvaise. Hein, c'est pour ça que vous l'avez dit. Pour que vous voyez tout de suite. Rien de ce qui est mu, non pas rien de ce qui se meut, rien de ce qui est mu n'est mu que parce qu'il est en puissance. Donc, rien de ce qui est mu. Dans la mesure même où il est mu, il est en puissance par rapport à ce que le mouvement lui procure. Vers cela, vers quoi il est mu. Or, mouvoir, c'est faire passer de la puissance à l'acte. Et rien ne peut être amené à l'acte autrement que par un être en acte, comme un corps chaud actuellement, tel le feu. Prend chaud actuellement le bois qui était auparavant chaud en puissance. Et ainsi le meut et l'altère. Or, il n'est pas possible que le même être envisagé sous le même rapport soit à la fois en acte et en puissance. Il ne le peut que sous des rapports divers. Par exemple, ce qui est chaud en acte ne peut pas être en même temps chaud en puissance, mais il est en même temps froid en puissance. Il est donc impossible que sous le même rapport et de la même manière, quelque chose soit à la fois mouvant et mu, c'est-à-dire qu'il se meuve lui-même, qu'il soit mu par soi par lui-même. Donc, si une chose est mu, on doit dire qu'elle est mu par un autre. Alors vous voyez que tout ce principe que saint Thomas saisit affirme ici, tout ce qui est mu par un autre, repose, saint Thomas ne le démontre pas, mais repose sur la métaphysique de l'être en acte et en puissance. Et ça, je crois, ce qu'il faut bien comprendre. Une fois que vous avez saisi la métaphysique de l'être en acte et d'être en puissance, vous pouvez tout de suite comprendre que tout ce qui est mu, du fait même qu'il est mu, il est en puissance. Autrement, il ne serait pas mu. Puisque ce qui est mu, c'est ce qui est capable de changer. S'il est capable de changer, ça prouve qu'il est en puissance. S'il est en puissance, il ne peut passer un acte que par un autre. Mettre un acte. Donc, vous voyez bien que tout ce qui est mu parce qu'il est en puissance, il est mu en acte. Par un autre, c'est l'être en mouvement. Puisque l'être en mouvement ne pourrait pas vouloir ce qui est en mouvement. L'être en puissance ne pourrait pas vouloir ce qui est en puissance. Donc il faut nécessairement que tout ce qui est mu parce qu'il est en puissance est mu par un autre qui est l'être en acte. C'est donc la distinction entre l'être en puissance et l'être en acte qui me fait comprendre que tout ce qui est vu est nécessairement vu par un autre. C'est tout simplement ce que Saint Thomas rappelle. Saint Thomas va rappeler un troisième principe, plus exactement un troisième moment, que si ensuite la chose qui meut se meut à son tour, il faut qu'à son tour elle soit mue par un autre, et celle-ci par un autre encore. Or, on ne peut pas ainsi procéder à l'infini. C'est le non processus infinitum. On ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes. On ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre de l'autre, l'être en acte, par rapport à l'être en puissance. Je ne peux pas remonter à l'infini. Donc, il y a donc, vous voyez, quatre moments. Et le dernier moment, nous verrons ce soir, c'est que cette conclusion dernière se ramène à Dieu. On ne conclut pas sur Dieu, on conclut sur l'être immobile que tout s'appelle. Vous allez voir, on reprendra ça ce soir, vous allez donc voir qu'il y a cinq moments, 1, 2, 3, 4, 5, dans cette démonstration postérieure. Ce qui montre bien que ce n'est pas une démonstration simple, c'est une montée, c'est un dévoilement progressif.